Bienvenue à toutes et à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture consacrée aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Et ce soir, nous tentons de faire une analyse de la situation économique, législative et politique des crypto-monnaies, ou plutôt des crypto-actifs. Vaste programme. La fin de l'année 2022 a été marquée par le scandale FTX, du nom de cette gigantesque plateforme d'échange qui a fait faillite en laissant derrière elle des centaines de milliers d'investisseurs. Une entreprise fondée par Sam Bankman-Fried, un jeune américain au style décontracté qui risque aujourd'hui 115 ans de prison pour escroquerie. Que dit cette chute vertigineuse des pratiques du secteur? Comment l'économie des cryptos peut-elle durablement se relever? Elle qui repose principalement sur la confiance, avec une promesse de transparence. Comment entrevoir l'après FTX, à un moment où la régulation européenne se fait de plus en plus urgente? Cette intervention étatique est-elle compatible avec l'idéologie de crypto, des cryptos basées sur la décentralisation? Allons-nous vers une nouvelle ère, et si oui, laquelle? Beaucoup de questions et deux invités pour y répondre. Stanislas Blatter-Limi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes manager crypto et Web3 chez KPMG. Vous pourrez revenir sur les grandes étapes qui ont mené FTX à la faillite. Une affaire qui, selon vous, ne remet pas en cause la technologie ni l'idéologie des cryptos. Un scandale qui pourrait même permettre d'assainir le marché. À vos côtés, Nastasia Adjadji, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste spécialisée dans l'économie du numérique et la critique des technologies. Vous préparez d'ailleurs pour mai un ouvrage sur les crypto-actifs, un ouvrage plutôt critique aux éditions Divergence. Vous nous expliquerez en quoi la faillite de cet intermédiaire révélatrice du fonctionnement des acteurs de l'écosystème, tout en analysant le lobbying du secteur en France, voire même en Europe. Au programme également, les nouvelles du meilleur des mondes et la chronique de Marie Turcan, rédactrice en chef chez Numérama, qui nous fera une analyse du style capillaire et vestimentaire de Sam Bankman-Fried, dit SBF, ancien patron de FTX. Que d'acronymes. Notre émission s'écoute en direct ou en podcast sur l'application Radio France et sur regarde sur la chaîne Twitch de France Culture. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Le meilleur des mondes, c'est parti.
Hi, my name is Sam and this is my story.
Il a gardé le silence pendant toute la durée de l'audience. Le cofondateur et ancien patron de la plateforme d'échange de crypto-monnaie FTX, Sam Bankman-Fried, a plaidé non coupable mardi des 8 chefs d'accusation retenus contre lui. Il risque plus de 100 ans de prison.
Bah, on va parler de crypto.
10 novembre 2022, Twitter.
Je suis désolé, j'ai merdé. J'aurais dû mieux faire.
C'était début novembre et vous en avez peut-être entendu parler, FTX faisait faillite.
Jeune trentenaire américain qui a perdu en une journée 94% de sa fortune. La chute de FTX a entraîné la perte de 240 milliards de dollars de capitalisation, l'une des plus grandes destructions de richesses de l'histoire. En France, ce serait 86 000 personnes qui se retrouveraient victimes de ce séisme.
On a des étudiants, des personnes plus âgées, des personnes qui avaient placé leurs économies dans les crypto-monnaies, bien évidemment, et qui ont perdu une grande partie de leur investissement.
Depuis que la plateforme d'exchange FTX est tombée, un doute plane sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies.
Et on revient donc sur l'affaire FTX, la deuxième plateforme d'échange mondiale de crypto qui a connu une trajectoire éclair, fondée en mai 2019 et devenue insolvable en novembre dernier, une entreprise valorisée 32 milliards de dollars. Alors pour bien comprendre, Stanislas Barthélémy, expliquez-nous comment cette entreprise déjà s'est hissée à de tels sommets en si peu de temps.
FTX, c'est ce qu'on appelle une bourse d'échange crypto. C'est-à-dire que pour se procurer de la crypto quand on a des euros, des dollars, bref, des monnaies fiduciaires, on doit passer par des intermédiaires. Donc on voit que tout n'est pas de décentralisation, passé par des intermédiaires. En l'occurrence, cette plateforme FTX, on va dire au succès relatif et puis à l'arnaque dramatique, avait beaucoup de volume, mais l'entrepreneur derrière, donc ce fameux Sam Bankman-Fried, disposait d'un fonds d'investissement. Il a fait des investissements qui sont douteux a posteriori, c'est-à-dire qu'il était trop lié au marché, et quand le marché s'est retourné, tout s'est effondré. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé, pour essayer de se couvrir, de prendre une partie des dépôts des clients de sa plateforme FTX pour essayer de sauver son fonds qui s'appelle Alameda. Le jour où il y a eu des rumeurs et même des tweets de concurrents, à raison d'ailleurs, disant que la société était insolvable, les clients ont voulu récupérer leurs fonds, on appelle ça un bank run en économie, mais il n'y avait pas assez de fonds pour garantir tout ce que les clients demandaient, d'où un moment où il a arrêté et ils ont fait ce qu'on appelle le chapitre 11 aux États-Unis, c'est-à-dire faillite.
Faillite. Alors là, vous avez effectivement, vous êtes passé aussi comme un éclair du succès à la faillite et les raisons de la faillite. On aura l'occasion d'en revenir un peu plus dans les détails. Mais déjà, pour comprendre comment cette entreprise c'est devenue la deuxième place, hein, justement, d'échange, j'imagine que c'est un succès qui tient aussi à la particularité de son fondateur, dans notamment l'art du storytelling, Nastassia Djadji.
Oui, en effet, FTX, c'était donc, comme le disait Stanislas, la deuxième plus grosse bourse d'échange après Binance. Et elle était, effectivement, son succès tenait en partie à l'aura de son fondateur, donc qui était présenté par les médias un petit peu comme le petit prince de la crypto. Petit prince, pourquoi ? Parce que très jeune, SBF a 30 ans. À 30 ans, il est donc accusé de l'une des plus graves fraudes de l'histoire économique de son pays, quand
donc,
même.
Donc, il n'avait même pas 30 ans quand il l'a lancé, c'était en 2019.
Tout à fait, il n'avait pas encore 30 ans quand il a lancé FTX. Auparavant, lui, il a un parcours, il vient de l'élite économique américaine. Il a étudié au MIT, il a fait ses armes à Wall Street au sein d'une firme qui s'appelle Jane Austen, qu'il a rapidement quitté. Pour ensuite fonder donc son fonds FTX. La particularité de SBF, c'est vraiment...
Donc SBF, pour bien comprendre, c'est bien Sam Bankman-Fried qu'on appelle SBF. Voilà,
on va raccourcir, mais ouais. C'est bien lui dont il s'agit. Il était vraiment présenté comme un petit génie, je le disais, un peu ce jeune nerd touché par la grâce d'une intelligence hors norme. C'est cette typologie de personnage, on la retrouve assez fréquemment dans les techs, mais aussi dans la crypto. Et donc, voilà, il s'habillait de manière assez relâchée. Il y a une photo de lui qui a circulé où il était sur scène aux côtés de Bill Clinton et de Tony Blair en t-shirt informe, short informe, basket, cheveux complètement mal coiffés. Et donc, il jouait vraiment sur ce personnage de nerd, de génie. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très particulier. Du coup, comme je le disais, cette image de nerd, cette intelligence hors norme sur laquelle il capitalisait, ça lui a permis d'acquérir de la sympathie. Et donc, il a monté son business qui a grossi. Il avait des soutiens économiques et financiers très, très puissants au sein de l'économie américaine. Et voilà. Et aussi, le succès de FTX, je pense, reposait sur un marketing assez agressif. Ils se sont offerts énormément de publicité, que ce soit en achetant des stades de sport, que ce soit en s'offrant des spots publicitaires à la mi-temps du Super Bowl, qui est donc le spot publicitaire le plus cher.
Le plus cher de l'histoire, avec une audience effectivement assez remarquable.
Colossale. Ils avaient des célébrités comme le joueur de football américain Tom Brady, sa compagne Gisele Bündchen, qui revendiquaient leurs propres investissements, donc eux aussi ont perdu beaucoup de capital, mais ils étaient vraiment des têtes d'affiche un petit peu pour défendre cette plateforme. Et voilà, et même en fait, FTX se revendiquait aussi la plateforme par des traders, pour des traders, donc jouer aussi sur une aura de technicité, de professionnalisme. Et un dernier point aussi sur la question de la communication autour de la plateforme, en France en particulier, il a été montré que les mois qui précédaient la faillite, ils avaient fait pas mal d'investissements publicitaires dans la presse spécialisée crypto, notamment en ayant recours à des techniques somme toute assez communes de brand content. Donc on va payer pour avoir un article un petit peu qui parle soit des produits, soit qui raconte des histoires en lien avec la plateforme. Et moi, dans les témoignages de personnes qui ont perdu sur FTX, on m'a rapporté que certaines avaient cliqué sur ces articles en pensant avoir affaire à déjà une plateforme très solide, mais aussi à un article plus traditionnel.
Donc un marketing bien rodé, l'incarnation effectivement de la figure du génie qu'on connaît bien dans la Silicon Valley. D'ailleurs, on a déjà accordé des émissions ici, on essaye de déconstruire cette figure-là comme si c'était une sorte de personne qui serait douée d'un talent particulier. Mais en tout cas, force est de constater qu'il avait cette faculté d'arriver à convaincre à la fois les investisseurs, les médias et puis le public. Quel a été le rôle, Stanislas Barthélémy, le rôle de Binance justement dans la chute de FTX? Parce que Binance, c'est donc le concurrent, le leader, qui d'ailleurs était assez lié avec FTX, son patron était assez lié avec FTX puisqu'il a été un des actionnaires.
Tout à fait.
Et il y a eu, je crois, quelques déclarations qui ont précipité aussi la chute de FTX.
Exactement, c'est-à-dire qu'à la naissance de FTX, il y a donc son concurrent direct, mais au tout début, FTX n'était pas encore grand-chose. Binance, par la voix, alors ça fait aussi un acronyme de CZ, Patron
de Zhao, c'est ça ?
Exactement, le patron de Binance. Donc ils ont investi au capital et très rapidement FTX a gagné des parts de marché, notamment sur le marché américain où Binance a eu du mal à fournir la liquidité et s'implanter. Et il y a eu un peu cette compétition justement à un moment alors qu'il était à son capital de la part de SBF, de Sam Bankman-Fried, de lancer la compétition. Donc c'était un peu étrange d'avoir entre guillemets à son capital son principal concurrent. Et donc ça s'est soldé par un gros chèque, c'est-à-dire que CZ a plus que fait 10 fois sa mise et est parti avec un chèque de 2 milliards que lui a donné donc le patron de FTX. Et c'est un peu le combat des titans, puisque c'est tout procède, du moins la partie où FTX s'effondre, ça procède d'un tweet justement de CZ qui annonce vendre. Parce qu'en plus, il y a un jeton, il y a une sorte de jeton de cet échange, de cette plateforme d'échange.
Que là, pour comprendre la plateforme, donc FTX a créé sa propre crypto.
Exactement.
CryptoAbic, on appelle un jeton, un token.
Exactement.
C'est FTT, c'est ça ?
C'est le FTT token, voilà. Qui ne donnait pas beaucoup d'utilité, si ce n'est détenir des jetons. Ça permettait d'avoir des ce qu'on appelle des frais moindres sur les échanges. Donc c'était le seul intérêt à disposer du jeton. Donc le modèle est assez faible, c'est pas du capital, on touche pas les dividendes. Et c'est justement de par la détention de FTT token en plus du capital que CZ via un tweet annonce qu'il y a des doutes très sérieux suite à un article qui est sorti en disant qu'il y avait peut-être pas tout les dépôts des clients comme annoncé et que la boîte n'était pas si solide que ça.
Donc là on a un investisseur majeur qui dit en gros j'ai plus confiance, parce que on parle beaucoup de confiance et de croyance aussi quand on parle de crypto-monnaie, je n'ai plus confiance en FTX, ça crée une panique sur les marchés qui fait que tout le monde se retire et ça va précipiter justement sa chute. Pour bien comprendre, Nastasia Adjadji, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement à SBF dans l'histoire ? Donc on a compris qu'il y avait une histoire de fraude, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? C'est le rôle donc justement Stanislas a commencé à l'expliquer. Expliquer d'Alameda, mais on lui reproche quoi exactement ?
On lui reproche de graves malversations financières dans la gestion économique de sa société et on lui reproche une grande opacité aussi sur la gouvernance de son entreprise. Il faut savoir qu'FTX, c'est une architecture extrêmement complexe de plusieurs dizaines de sociétés qui devraient théoriquement être indépendantes les unes des autres, et Stanislas l'a expliqué, Alameda Research, qui était un fonds d'investissement qui faisait des paris très risqués, communiquait, il y avait des vastes communicants avec FTX. Il y avait d'ailleurs même une backdoor, donc en fait une porte secrète, qui avait potentiellement été codée par SBF lui-même, pour autoriser des transferts de fonds entre les deux entités, ce qui est rigoureusement interdit les systèmes bancaires traditionnels.
Et je crois que lui-même publiquement d'ailleurs avait dit qu'il n'y avait aucun lien, qu'il y avait vraiment un mur de séparation entre Alameda, qui était donc un fonds d'investissement risqué, à haut risque, et FTX. Donc il a perdu via Alameda, et donc pour récupérer des fonds, il est allé piocher chez FTX pour essayer de rembourser ou de payer ses investisseurs risqués. Et puis évidemment, à un moment donné, tout cela l'a dépassé. Je vous propose de l'écouter. SBF, il nous parle de quelque chose, d'une boîte un peu vide. Vous allez voir, c'est assez intéressant.
Par où est-ce que vous commencez ? Vous commencez avec une entreprise qui construit une boîte. Et en pratique, cette boîte, ils l'habilleront probablement pour la faire ressembler à un protocole qui changera la vie, qui changera le monde et qui remplacera toutes les grandes banques en 38 jours ou peu importe. Littéralement, c'est juste une boîte.
C'est juste une boîte. Alors effectivement, ça a été une utilisation qui a été reprise par la suite de SBF qui nous parle de cette boîte vide. C'est un petit peu finalement ce qu'il a fait, c'est-à-dire que il a promis du vide. On n'est pas très loin du système de Ponzi, Stanislas Barthélémy.
En quelque sorte, c'est ça, tout à fait. Il a les caractéristiques du démiurge qu'on peut voir dans la Silicon Valley qu'on évoquait. Le problème quand même de FTX, ce serait de faire un amalgame avec la technologie, entre guillemets, blockchain, donc par exemple Bitcoin, qui est pour le coup un protocole informatique où on peut échanger de la valeur de manière décentralisée. Et là, ce qui est mis en cause, c'est l'entité centralisée qui permettait de faire la conservation de fonds et surtout le change. Et donc, il y a un peu ce distinguo à faire, à mon sens, et qui a eu déjà, malheureusement, mais dans le système financier, de grands scandales. Je pense que Enron, d'ailleurs, qui fait que d'ailleurs le liquidateur de Enron se retrouve aujourd'hui sur FTX, qui est un clin d'œil plutôt amusant.
Et il raconte que ce qu'il voit chez FTX est pire que ce qu'il a vu chez Enron, qui est la plus grave faillite de l'histoire américaine.
Oui, il y a des mots absolument, mais terrifiants de la part de cette personne. Il dit c'est du jamais vu, il n'y avait aucun contrôle interne, aucune politique RH, etc. Donc finalement, c'était miroir aux alouettes.
Et on lui reproche un amateurisme aussi. En fait, ce que je pense que les gens ont découvert à l'occasion de la faillite, c'est à quel point la gestion était calamiteuse et même presque presque infantile, en fait, de ces sociétés qui brassaient des milliers de milliards.
D'ailleurs, le nouveau patron, justement, de FTX, qui est arrivé aux commandes, a dit qu'il n'avait jamais vu ça, qu'il n'y avait même pas un livret de compte qui était tenu. Enfin, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Mais pour revenir, justement, sur l'analogie avec les scandales qui ont aussi parcouru l'histoire de la finance, c'est quand même assez intéressant de constater que ce qui a fait aussi l'essor des crypto-monnaies, même dans la philosophie, c'était aussi une réponse au scandale de la crise financière de 2008 en disant, bah, vous voyez, ce système bancaire que l'on pense fiable, etc., peut s'écrouler, est fragile. Avec les crypto-monnaies, avec justement cette idée décentralisée, ça pourrait être une réponse par rapport à une crise aussi de la confiance qu'il y avait sur le système bancaire traditionnel. Or là, on se rend bien compte que ce qui a été une incarnation de crypto, même si j'ai bien compris que c'était une plateforme d'échange centralisée, mais ce qui est quand même une incarnation, retombe finalement dans les propres travers du système bancaire classique. D'ailleurs, le patron de FTX actuel l'a dit, c'est old school finalement.
Et voire même les accélère, puisque quand même la technologie permet une accélération de l'ingénierie financière sur des actifs qui deviennent du coup très toxiques et ça prend des proportions derrière qui sont extrêmement graves. À mon sens, la technologie joue un rôle de catalyseur de la toxicité de l'ingénierie financière dans ces cas-là.
Donc ça les amplifie, Stanislas, c'était donc un peu dommage quand on est censé être quand on présente parfois comme une réponse à une problématique et qu'on devient quelque part aussi le poison de ce qui est censé être un remède.
Oui, mais FTX n'est pas la réponse au problème posé. Donc c'est-à-dire qu'on a une... Oui, dans l'écosystème, il y a une critique du système financier, mais j'ai envie de dire que c'est par des gens qui ont une idéologie politique. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont dans l'écosystème ou même les utilisateurs détenteurs de crypto ne sont pas en phase forcément avec cette idéologie politique. Par contre, ce qui est aussi intéressant sur FTX avec son patron SBF, c'est qu'il annonçait dans les 10 ans racheter par exemple Goldman Sachs. Donc en plus, il y avait une ambition démesurée qui, a posteriori, semble complètement ridicule. Les intermédiaires de cet acabit, c'est-à-dire pour faire du change crypto, sont nécessaires quand on veut transférer de la monnaie traditionnelle pour obtenir du change. Et donc, c'est là où il y a un besoin de régulation. On arrivera à ce que fait l'Europe, notamment avec un règlement qui s'appelle MiCA pour Marketing Crypto Assets. Donc, c'est quelque chose de souhaitable de réguler.
2024, oui.
C'est quelque chose de légitime de réguler les intermédiaires. Parce que ce sont des plateformes centralisées qui détiennent les cryptos pour le compte de tiers. Mais encore une fois, il n'y a aucun rapport entre ce qu'a fait FTX et le fonctionnement de Bitcoin. Bitcoin n'est jamais plus autant sécurisé que maintenant, a toujours des utilisateurs et tourne toujours.
Alors, je vais donner la parole bien sûr à Anastasia Adjadji dans un instant. Enfin, là où il y a quand même des corrélations, c'est qu'on a bien vu quand il y a eu la chute de FTX, ça a entraîné avec elle Bitcoin, ça a entraîné avec elle tout un système. Et sans parler des intermédiaires, etc. Donc, je comprends bien l'idée de décorréler, mais en même temps, c'était une personne forte de ce système-là.
Je ne le nierai pas, oui, c'était une personne forte, c'était encore une fois la deuxième bourse de change, donc c'est sûr que c'est conséquent. Personne ne peut défendre ce qu'il a fait, c'est un fraudeur, c'est normal d'ailleurs qu'il soit traduit devant la justice. Ça, il n'y a aucun sujet là-dessus. Et que les valorisations soient tombées, oui, parce que mécaniquement, à court terme, c'est légitime de se dire que le secteur, avec des acteurs comme ça, et entre guillemets, peut être considéré comme problématique. Mais ça, c'est si on fait l'amalgame, encore une fois, avec l'acteur centralisé et le protocole informatique qui a une utilité sociale, on pourra y revenir. C'est pour ça que je découple, et je ne nie pas que même sur des clients de KPMG, nous, il y a eu deux teintes, soit on nous a dit c'est quand même dommage, expliquez-nous, et d'autres qui ont su faire le distinguo.
Nastasia Djadji.
Sur la question de séparer la technologie des systèmes centralisés qui permettent l'échange à partir de ces cryptoactifs, il y a quand même un certain nombre de techniciens du code parmi les crypto-critiques qui expliquent en fait que cette technologie n'est pas aussi efficace que ce qu'elle prétend être. Qu'en matière de moyens de paiement, elle échoue, elle est beaucoup moins rapide, beaucoup moins efficace que ce qui existe déjà, donc des systèmes de paiement comme Visa, Mastercard, que les protocoles de Bitcoin, si on les compare avec le volume de transactions qui sont supportées par ces réseaux Mastercard et Visa, c'est ridicule. Et même avec le protocole Lightning Network, qui est une couche supplémentaire technologique qui était censée réparer un certain nombre de problèmes. Donc sur la question du moyen de paiement, les techniciens expliquent que ce n'est pas vraiment efficace. Par ailleurs, il y a aussi d'autres types de problématiques. Sur la question de la réserve de valeur, on voit bien que c'est une valeur qui est extrêmement volatile, qui fluctue. Donc, quand on dit Bitcoin est un rempart contre l'inflation, c'est aussi faux parce qu'on voit aussi que ça suit quand même les cours de l'inflation. Donc, les promesses sur cette technologie pure, elles sont aussi critiquables. Je pense qu'on ne sera pas d'accord.
Alors oui, je vais vous donner la parole tout de suite, Stanislas. Il y a deux points là que je retiens, deux limites. Alors, à la fois technique, c'est-à-dire sur la... et puis ensuite, c'est sur la volatilité, mais en fait, qui est plutôt indexée, comme vous le disiez, aux événements extérieurs. Inflation, de toute façon, on a vu aussi les conséquences de la guerre en Ukraine, par exemple, sur les crypto-monnaies. Mais je vous laisse répondre.
Oui, je pense que c'est un raisonnement fixiste, parce que maintenant, si on fait...
Un raisonnement, pardon ?
Un peu fixiste sur le fait que la technologie soit limitée, etc. Il y a déjà, sur le protocole Bitcoin, quand on regarde tous les volumes de transactions, ça dépasse déjà Visa et Mastercard, par exemple.
Alors, on n'a pas les mêmes chiffres.
Sur l'année 2021-2022, tout est transparent. Mais en fait, la blockchain est transparente, donc c'est assez facile, finalement, d'agréger toutes les transactions et d'en tirer un volume. Mais là où je vous rejoins, c'est sur le paiement. Aujourd'hui, ce n'est pas encore satisfaisant. Mais c'est raisonnement fixiste parce qu'il y a déjà des solutions de scalabilité. Alors, on a évoqué Lightning Network, mais si on sort
Scalabilité, c'est qu'on va essayer de dupliquer justement ce qui fonctionne, de reproduire en fait un modèle qui fonctionne.
L'idée, en gros, c'est le passage à l'échelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le protocole Bitcoin est parfaitement sécurisé et décentralisé, mais c'est au détriment du nombre de transactions qu'on fait, puisque si on essaye de mettre plein d'acteurs, on va dire, de manière horizontale qui gèrent le réseau, on ne peut pas faire beaucoup de transactions puisque ces acteurs doivent communiquer. Donc c'est un peu ça, c'est l'idée. Donc il y a déjà beaucoup de volume, et sur la partie paiement, en réalité, on n'utilisera pas justement Bitcoin directement pour du paiement, on utilisera d'autres couches qui vont se superposer, de la même manière que l'Internet aujourd'hui est construit en couches. Et donc je pense au contraire, aujourd'hui, quand je vois les innovations qui se passent sur Bitcoin avec Lightning Network, ou même sur Ethereum qui est une autre blockchain, la promesse à horizon 2-3 ans, on voit que ça mature, qu'on peut faire du passage à l'échelle, et c'est justement de faire du transfert de valeur quasiment à des frais modiques, quasiment de la centime, et de manière quasi instantanée, sans être au détriment, encore une fois, de cette sécurité, cette décentralisation que j'évoquais tout à l'heure. Ce qui fait qu'on ne parle plus de Bitcoin comme l'unité numérique, l'unité de compte. On parle de Bitcoin ou même d'Ethereum comme l'infrastructure qui permet de faire du paiement. Et ce paiement n'est pas forcément utilisé, on ne fait pas forcément du paiement, et je suis même convaincu que l'adoption ne se fera pas avec du paiement en utilisant Bitcoin ou l'Ether comme monnaie, mais au contraire, notamment avec des stablecoins.
Et donc, des stablecoins vulgariser, donc ce sont des crypto-monnaies qui sont adossées à des cours de monnaie connues ou à des valeurs, on va dire, plus refuge ou plus stables, comme le dollar, l'euro ou l'or. Oui, Nastasia Adjadi.
Premier point déjà, on a beaucoup parlé de Bitcoin, mais il y a une jungle absolument colossale de crypto-actifs en circulation. Pour revenir à la problématique qui était la nôtre depuis le début de l'émission, de la dangerosité, des faillites, ces blockchains-là, ces crypto-actifs, cette jungle-là, ne sont pas du tout ni sécurisés ni encadrés comme ils devraient l'être. Et c'est là aussi que se niche une grande part du risque associé à cette économie, en fait, premièrement. Et ensuite, par ailleurs, sur la question des tokens supposément stables, l'une des grandes affaires de 2022, c'est aussi l'effondrement d'un écosystème de stablecoin, précisément, qui était l'écosystème Terra Luna, où là encore, en l'espace d'une nuit, on a quand même une perte de valeur de 50 milliards de dollars. Des investisseurs, et notamment des centaines de milliers de petits investisseurs, des gens normaux, qui pourraient être mon frère, mon cousin, ma mère ou ma cousine, qui ont perdu énormément d'argent. Et ça, c'est arrivé avec une brutalité extrême. C'est-à-dire qu'on a un token qui a chuté à zéro en l'espace de quelques heures.
Oui, mais c'est pas n'importe quel
stable,
type de stablecoin.
Présenté comme stable.
Oui, présenté comme stable par les personnes qui étaient derrière, mais qui avaient aussi des intentions frauduleuses. Et en analysant le projet, en tout cas, moi, j'ai jamais touché à ça. En analysant le projet, on voyait tout à fait que ça tenait pas économiquement. Ce serait dommage, pareil, de faire l'amalgame entre tous les modèles de stablecoin.
Mais comment un néophyte?
Alors, je suis d'accord, mais c'est vrai que pour replacer la question, c'est que ça commence à faire beaucoup. Là, le but du jeu, c'est effectivement, et là, on ne veut pas du tout tomber sur des poncifs ou des idées reçues. D'ailleurs, on a fait une émission il y a plus d'un an sur la question. On a essayé de bien comprendre les vertus de la blockchain. On a essayé de comprendre aussi le protocole Bitcoin, etc. Néanmoins, force est de constater sur cette année 2022 que entre la chute de FTX, même si on arrive à la décorréler, mais qui embarque avec elle et qui, là, je reprends les propos de Nastasia, est un peu symptomatique aussi de certaines pratiques dans le secteur, et ce stablecoin qui est censé effectivement être une monnaie stable, comme son nom l'indique. Et là, on a quand même aussi l'exemple avec Terra Luna d'une stablecoin qui a sombré. Donc, vous experts, vous arrivez à faire le distinguo, mais le grand public qui...
Et ce serait dommage d'investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas déjà.
Mais beaucoup le font à cause du marketing agressif autour de cette industrie, qui est présenté comme le nouvel Internet, comme quelque chose qu'il ne faut pas rater soit sinon on va carrément louper le train et être complètement has-been, soit parce qu'on explique aux gens qu'ils peuvent s'enrichir gratuitement et sans travail.
Juste pour reprendre cette idée de on va rater le train, on va se sentir has-been, Stanislas Barthélémy, est-ce que lorsqu'on a parlé justement des investisseurs sur FTX, qui sont tous allés, hein, des investisseurs très respectables, on a parlé de cette logique du FOMO, c'est-à-dire de l'impression de penser qu'on va rater la grande affaire, et c'est ce qui a fait qu'il y a eu un manque de vigilance aussi de la part des grands investisseurs, qu'on peut justement rapprocher du manque de vigilance quelque part du lambda qui se dit « Tiens, on me dit que c'est là où il faut aller, j'y vais et je vérifie pas. »
Oui, il faut savoir raison garder déjà quand on a peur et qu'il faut investir dans la précipitation comme ça. Je pense que c'est jamais une bonne technique d'investissement, mais ça vaut pour la crypto, mais ça vaut pour n'importe quoi. Il y a des cours de bourse et des entreprises qui soit ont été frauduleuses, soit sont tombées à zéro puisque l'entreprise n'a pas fonctionné. Mais pour revenir juste sur la notion de stablecoin... Oui, le projet, en l'occurrence Terra Luna, c'est quelque chose d'assez complexe d'apparence, mais finalement, économiquement, ça ne tenait pas. Il ne faut pas dire que les stablecoins sont mauvais par essence. Les bons modèles de stablecoins, ceux qui vont se répandre, ceux qui tendent à être régulés, je pense notamment à l'entreprise émettrice aux États-Unis, Circle, mais même en Europe, il y en a qui arrivent, c'est de bloquer de la monnaie fiduciaire dans un compte bancaire et d'émettre la contrepartie sur blockchain, donc de 1 pour 1. C'est-à-dire que le collatéral cash existe. Donc là, on n'est pas sur le modèle du Terra Luna qui, je suis tout à fait d'accord, était frauduleux et il fallait s'en prémunir. Et le fait que ce soit monté à 40 ou 50 milliards, ça montre que tous les acteurs ne faisaient pas forcément leur diligence. Même chose sur FTX, on voit des investisseurs qui ont une renommée dans l'investissement de la tech, qui ont investi dans FTX, qui investissaient sur parce que Sam Bankman-Fried était populaire, bien vu en une du Times, enfin bref, de ce genre de médias.
Donc les grands investisseurs sont si influençables que ça, c'est-à-dire qu'on fait une couverture du Times et puis du coup on injecte des...
Pour certains, effectivement, ils ne sont pas allés plus loin et pour certains, ils expliquaient avoir fait confiance à un autre fonds qui lui-même faisait confiance à un autre fonds.
À partir du moment où le premier n'a pas vérifié, les autres ont suivi.
Exactement.
Avec un effet,
il y a eu un effet due diligence, parce que ça ne veut pas dire que tous les investisseurs dans le domaine crypto, d'ailleurs, il y en a plein qui ne sont pas dans FTX et plein qui n'auraient pas investi dans FTX.
Et comment on peut expliquer, justement, pour essayer de continuer à décrypter cette histoire, que les autorités, de régulation des marchés américains, elles n'auraient pas pu voir la fraude? C'était impossible de le voir, ça?
Le secteur était en négociation et aux États-Unis, c'était un peu Sam Bankman-Fried qui représentait une partie du secteur pour aller négocier notamment à ce qu'on appelle la SEC, c'est l'équivalent de l'AMF aux US, pour donner un cadre. Parce que c'est ça la grande chose aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas de cadre sur la crypto. Ce qui met en lumière d'ailleurs le cadre en Europe qui arrive. Et donc le fait qu'il n'y ait pas de cadre aux États-Unis, ça fait que la SEC a la capacité de, entre guillemets, de venir questionner le modèle d'une entreprise, à l'aune d'un droit d'ailleurs qui, à mon sens, sur les titres financiers est vieux et peut-être un peu trop vieux, ou alors il faudrait adapter aux actifs numériques. Et donc c'est un peu cette notion d'incertitude qui pousse des acteurs à aller... Par exemple, aux Bahamas, c'est le cas de FTX, et c'est là le nœud gordien. C'est-à-dire que l'entreprise, il y avait une entreprise FTX US, mais qui était toute petite et pas très usitée, et tous les clients étaient sur FTX international aux Bahamas, où là, c'est plus difficile. On peut faire des arnaques quand on est aux États-Unis, mais c'est plus difficile de les faire. Mais c'est aux Bahamas qu'on s'est retrouvé avec la structure, et on a vu qu'il n'y avait rien derrière, parce que c'était un peu plus obscur ce qui s'y passait.
Donc c'est le Bahamas qui les a sauvés, qui leur a permis effectivement d'échapper soit à une vigilance, on va dire, de contrôle, soit tout simplement de ne pas tomber sous le coup simplement de la loi, Nastasia Djadji.
Exactement, il faut quand même souligner que ces grandes sociétés, dans leur structure juridique, opèrent depuis des paradis fiscaux, donc c'était les Bahamas pour FTX, Binance, c'est assez flou, puis elles ouvrent des filiales dans des pays où elles vont être régulées. Et il y a un certain nombre de journalistes qui se concentrent un peu sur cette question et qui montrent que souvent, ces filiales-là, elles jouent un peu le rôle d'appât. Donc, sous-entendu, la juridiction locale va pouvoir réguler cette petite filiale qui brasse très, très peu de capitaux, pendant que la maison mère, elle, opère et brasse la majorité du capital en dehors de toute régulation. Ce qui correspond à peu près à l'éthos de la crypto-industrie qui, quand même, a été... bâti sur la volonté farouche d'échapper à la régulation de l'État et des autorités financières.
Non, je suis pas totalement d'accord, mais c'est pareil sur le paiement tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a la capacité à dire bon, ça ne fonctionne pas en tant que paiement, c'est pas bon. Le stablecoin, dire que le modèle de Terra, c'est tous les modèles de stablecoin, c'est pas vrai. C'est pas l'éthos de la crypto-monnaie, ce qui s'est passé avec FTX. Pas du tout. L'éthos de la crypto-monnaie, c'est disposer d'une alternative quand on est dans un pays et c'est nous permettre de quitter les sujets de valorisation. C'est l'utilité sociale du Bitcoin, mais quand je dis crypto, oui, je me concentre sur les principales cryptos les plus intéressantes. Il y en a 10 000, mais en réalité, il y en a quelques-unes qui sont vraiment intéressantes.
Et puis surtout en termes de volume, parce que le Bitcoin est largement première dans les échanges. Et en plus, on doit avoir l'Ethereum en deux.
C'est ça. Et... Si on additionne Bitcoin et l'Ether, on a déjà à peu près 60% de la valeur totale du marché. Donc je fais fi de tous ces petits projets qui ne sont pas tout le temps intéressants. Mais quittons un peu le domaine de la valorisation et de dire c'est le sexe des gens, est-ce que Bitcoin va monter, descendre. C'est, à la rigueur, c'est pas ce qui est intéressant à mon sens, c'est l'utilité sociale derrière Bitcoin. C'est par exemple dans des économies où la valeur de la monnaie s'effondre à cause de l'inflation, et c'est pas l'inflation que nous on connaît en Europe, malheureusement, c'est des inflations, des taux d'inflation à 100%, c'est Liban, Argentine ou même voire l'Afghanistan, où pour des habitants qui sont alors sous le joug de pouvoirs politiques qui sont peu reluisants, c'est la capacité à sortir de la valeur, à partir du pays en préservant de la valeur, c'est la capacité à faire du paiement et disposer par exemple de stablecoin dollars au Liban pour payer au moment même où la monnaie au Liban s'effondre. C'est ce genre de choses et qui, à mon sens, ne sont pas touchées justement par FTX, si ce n'est juste à court terme par le prix du Bitcoin. Mais on n'utilise pas que Bitcoin pour l'investissement, aussi pour du paiement et d'autres choses.
Donc effectivement, l'argument que vous avancez est un argument, on va dire, un peu fondateur dans la poésie et dans l'origine, en tout cas louable, des crypto-monnaies. C'était ça, c'est échapper aussi à l'État, quand d'ailleurs se fait un État qui va être régulateur, un État qui va être censeur, et donc qui permet une sorte d'émancipation aussi individuelle. C'est le pro, ça prend la décentralisation. Nastasia.
Une petite réaction sur ce qui vient d'être dit sur l'utilité sociale, sur des pays qui sont en proie à une inflation forte. Va-t-on proposer à des populations déjà exsangues des outils financiers qui les exposent encore plus sur des marchés dérégulés?
Pensez au Salvador par exemple, hein.
Oui, mais même au Liban, qui était cité, ou à l'Ukraine. Donc, je disais des actifs financiers qui sont sur des marchés dérégulés, qui sont extrêmement volatiles, qui supposent des pertes en capital fortes. Va-t-on décemment proposer ça comme une solution à des populations déjà exsangues?
Quand on doit fuir parce que la guerre arrive et que c'est une question de vie ou de mort, oui, c'est pas mal. Et après, il n'y a pas que Bitcoin. Si on peut se concentrer, par exemple, sur du stablecoin, on utilise le stablecoin dollar, ça permet de payer au quotidien et d'éviter que la valeur, c'est-à-dire ce qu'on extrait de son dur labeur, l'argent, soit dévalué parce que si je garde ma monnaie, au bout de 30 jours, par exemple, ça vaut plus rien.
Mais est-ce qu'on peut payer en stablecoin au milieu de la jungle salvadorienne?
Alors non, pas au milieu de la jungle salvadorienne, mais d'ailleurs, personne n'est bancarisé quasiment au Salvador. Et si on parle du Salvador, il y a un sujet intéressant qui est...
On parle du Salvador parce que ça a été un des premiers pays à adopter le Bitcoin comme étant une monnaie officielle, à peu près l'équivalent de leur monnaie officielle à eux, donc une double monnaie.
Il y a deux choses intéressantes sur le Salvador si on regarde ce pays, mais l'utilité sociale n'est pas que conscrite au Salvador. C'est par exemple utiliser l'énergie des volcans pour miner du Bitcoin et donc utiliser cette énergie qui est renouvelable et quasiment illimitée pour essayer de tirer de la valeur. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la rémittance, c'est-à-dire les diasporas qui envoient de l'argent donc à leur famille dans certains pays au Salvador. Ça représente 20% du PIB du Salvador. Et aujourd'hui, les acteurs qui sont sur ce marché-là sont des acteurs qui prennent évidemment un frais économique.
C'est quoi, par exemple, Western Union ou
MoneyGram, enfin bref, on pourrait toutes s'amuser à les citer, mais qui prennent quasiment en moyenne 5 à 6% sur les flux. Utiliser Bitcoin, l'Ether ou même du stablecoin, encore une fois, je ne parle pas que de Bitcoin, c'est justement casser ces frais. Et donc, quelque part, plus d'argent pour les diasporas et pour les...
Mais encore faut-il, si je peux me permettre, avant d'envoyer la musique, encore faut-il être bien informé. On l'a dit tout à l'heure à quel point, justement, le manque d'informations, justement, sur FTX a causé des faillites parce qu'on ne savait pas reconnaître le bon du mauvais placement. Lorsqu'on est dans des pays que vous citez, Liban, Salvador, etc., dans des populations qui ne sont pas forcément des populations totalement outillées, c'est peut-être pas simple aussi d'arriver à une information et d'être renseigné.
Je me permets juste une chose avant de je me permets de te tutoyer, Anastasia. Quand on est au Liban et qu'on est aujourd'hui menacé, on comprend très vite l'utilité de Bitcoin comme une alternative. Encore une fois, je pense qu'il y a un peu le biais d'être dans une ère économique plutôt en protection, dans une démocratie libérale. Je vous assure, en tout cas, moi j'ai parlé à certains Libanais, ils comprennent tout à fait l'enjeu quand il s'agit de préserver son travail, préserver sa vie.
Anastasia Djadi pour répondre, et puis après on va aller du côté d'Alain Souchon.
D'une part, pour accéder à Bitcoin, quand on est Libanais, on passe souvent par des sociétés privées qui sont extranationales et qui n'ont pas forcément les intérêts des Libanais en tête, donc déjà d'une part. Par ailleurs, juste rapidement, sur le Salvador, qui est véritablement le produit d'appel de la crypto-industrie, qui est présenté unanimement comme véritablement ce qui se fait de mieux et un pays avant-gardiste, ça va sauver la population, c'est génial. Faut rappeler que les études scientifiques, les articles de presse, les reportages montrent à quel point c'est un échec économique et politique qui sert les visées électoralistes d'un président autoritaire. Les rémittances, c'est une institution économique américaine qui a montré que seuls 2% des rémittances se font en crypto et en bitcoin.
C'est le début.
C'est marginal.
C'est vrai que le bilan a été quand même contrasté.
C'est trop rapide pour juger.
Parce que ça fait un peu plus d'un an, c'est ça?
C'est ça, ça fait plus d'un an, mais ça fait un an et quelques mois. Juger, mais encore une fois, j'ai presque envie d'être d'accord avec toi ou vous, si tu préfères. Alors,
mettez-vous d'accord, vous pouvez, vous voyez-vous, tutoyez-vous, mais en tout cas, un petit peu de cohérence, parce que sinon, on est comme les cours, vous savez, qui kiosque entre le tu et le vous, à un moment donné, on s'y perd. Donc, du coup, pour éviter toute spéculation de cours, moi, je vous emmène à une valeur sûre de la chanson française, une valeur refuge même, Alain Souchon, qui va partir avec notre petit parachute doré, celui qu'aurait bien voulu emprunter un certain Sam Bankman-Fried. Vous êtes dans le meilleur des mondes.
Adieu mégaphone, adieu calico, adieu représentant synco, à moi le soleil et le calypso, la nana, la noix de coco, à moi les alizés, les vents tropicaux, et moi bien frisé sur le bateau. Adieu les traders, adieu jogging, les briefings à l'heure, breaking, ouvriers, riez. Adieu les blouses grises en Chine, l'usine, on délocalise les coûts, on dégringole les banques, on peut rigoler, la boîte à coller m'épouse, on va se la couler, les douces, la pilule, on va se l'adorer, j'ai le parachute. Adieu mégaphone, adieu calico, adieu représentant syndicaux, à moi le soleil et le calypso, la nana, la noix de coco, adieu château Pétrus, encore stall en vin, adieu les jolies putrus dans les mystères vins, balancez les fraiseuses, les machines-outils, riez, ouvriez du joli gâchis. J'ai creusé, creusé, j'ai creusé la dette, au lieu de me creuser la tête. Un jour, les cours ont chuté et moi, la boîte à couler m'épouse, on va se la couler, les douces, la pilule, on va se la dorer, j'ai le parachute, doré.
Le parachute doré d'Alain Souchon qui atterrit avec poésie dans le meilleur des mondes, mais tout de suite c'est l'heure du journal.
Better, happier, comfortable. Not drinking too much. Regular exercise at the gym. 3 days a week.
Les nouvelles du meilleur des mondes, François Saltiel.
Et on ouvre ce journal par une grande enquête menée par un consortium de journalistes et de médias, dont la cellule investigation de Radio France, des investigations qui mènent à Tim George, énigmatique officine israélienne qui, dans le monde entier, entreprend des campagnes de désinformation. Derrière celui qui se fait appeler George, on retrouve Tal Hanan, un ancien des forces spéciales de l'armée israélienne, connu pour ses compétences en cyberespionnage. Des journalistes infiltrés empruntant l'identité de potentiels clients ont pu mieux comprendre les services et les méthodes utilisées par l'agence. Piratage de boîtes mail, campagne de dénigrement, diffusion de fausses informations, manipulation d'opinion, tout est possible, même orienter une campagne présidentielle. C'est le summum de l'offre, hein, si vous êtes en mesure d'aligner les dollars, en l'occurrence 15 millions. Dans l'enquête, on découvre que l'agence peut infiltrer des messageries privées dont les membres sont proches du pouvoir, notamment en Afrique, ou encore activer des journalistes français comme Rachid Mbarki sur BFM TV pour faire passer des messages. Mais nous découvrons surtout un savoir-faire sans pareil pour créer sur les réseaux sociaux des faux profils. Loin d'un robot de pacotille, ces avatars aux photos volées possèdent une réelle identité numérique, multiple, une existence sur les blogs, sur des services de livraison. Ils diffusent sur Facebook des posts lambda qui accréditent d'une existence numérique. Selon les journalistes, ils seraient des dizaines de milliers mobilisables à tout instant pour provoquer une caisse de résonance numérique. Depuis l'affaire Cambridge Analytica, nous n'avions pas vu une telle organisation de manipulation par le numérique. Tim George nous rappelle que les avatars sont plus futés qu'avant et qu'il va falloir redoubler de vigilance pour ne pas se faire doubler par la manigance.
Challenge accepted.
Lui, on ne sait jamais vraiment ce qu'il manigance. C'est Elon Musk, mécontent de voir ses tweets ne pas provoquer assez d'écho. Il a sommé à ses ingénieurs de changer le code de l'algorithme de la plateforme pour mettre en avant ses publications. Effet garanti, puisqu'un très grand nombre d'utilisateurs non abonnés l'ont vu débarquer sur leur fil par effraction. Imaginez s'il propose de vendre ce maxi-service à un client ou à un futur prétendant à une élection américaine. Cela pourrait totalement biaiser le débat public. Une inquiétude soulevée sur Twitter par le hacker éthique Bluetooth déjà reçu dans ce studio. On pourrait presque baptiser ce service Team Elon. Mais en attendant de savoir pour qui il pourrait bien rouler, il vient de permettre sur l'oiseau bleu la publicité pour le cannabis. Une première sur la corde à linge des réseaux sociaux. Et on termine par Bloomberg qui en remet une couche sur le phénomène de la phone anxiety. En français, l'anxiété provoquée par les conversations téléphoniques. De nombreuses études prouvent que les jeunes américains doivent se préparer avant de passer un appel qui est facteur selon eux de stress. Les jeunes ne se servent quasiment plus de leur téléphone pour téléphoner et la sonnerie est souvent synonyme de problème ou d'un rappel à l'autorité parentale. Pourtant, il semblerait qu'une conversation téléphonique serait un remède utile à la solitude et aux États-Unis, des professionnels jouent sur cette corde en proposant des formations pour retrouver l'art de la conversation contre plusieurs milliers de dollars. Hein. Tout de même, comme quoi les arnaques sont aussi à l'autre bout du fil. Ne raccrochez pas, vous êtes bien dans le meilleur des mondes. If you'd like to make a call, please hang up and try again. Et nous discutons toujours ce soir ensemble des crypto-monnaies, de la manière dont les crypto-monnaies se relèvent après cette année 2022 qui a été particulièrement compliquée, marquée par la faillite de FTX. Nous sommes en compagnie de Stanislas Barthélémy qui est manager crypto et Web3 au sein de KPMG et avec Nastasia Adjadji qui est journaliste spécialisée dans l'économie du numérique et la critique des technologies. Nous sommes également sur Twitch où vous pouvez poser vos questions. J'en prends une. Par quel mécanisme les particuliers lambda seront-ils prêts à accepter d'être responsables de leur argent plutôt que de les confier à des échanges décentralisés ? Voilà, une question d'Ostic 44. Stanislas, si vous souhaitez y répondre.
Avec plaisir. C'est toujours sur la notion d'alternative, c'est-à-dire pour des raisons de politique, de guerre, ce type de raisons, mais pour des raisons aussi même personnelles et idéologiques, on peut vouloir disposer de ces actifs numériques. Le terme actif est d'ailleurs intéressant, c'est que pour la première fois dans le monde numérique, on a un actif. On ne dépend pas d'un intermédiaire chez qui on fait de la conservation. Ça peut être le cas. Et d'ailleurs, au fur et à mesure de l'adoption, on donne un ordre de grandeur, c'est à peu près plus de 400 millions de personnes qui disposent de crypto dans le monde. La majeure partie de ces personnes passent par des intermédiaires. Relativement peu utilisent les solutions, ce qu'on appelle d'autoconservation, c'est-à-dire on devient soi-même sa propre banque en disposant d'un portefeuille qu'on sécurise soi-même.
On sécurise avec beaucoup d'outils justement qui sont créés, qui sont faits d'autant plus connaître suite au scandale FTX. Stanislas Barthélémy, vous me dites que finalement ce scandale-là pourra avoir une vertu, le fait d'assainir un peu le marché, l'écosystème.
Oui, ça pose des questions légitimes chez les décideurs politiques et notamment les régulateurs, c'est de savoir comment on appréhende ces intermédiaires, puisque c'est ça le nœud gordien, c'est ces intermédiaires qui font la gestion centralisée. Et en Europe, on a plutôt une bonne réaction, c'est-à-dire qu'au Parlement européen, il y a eu un règlement MiCA, Marketing Crypto Assets, donc qui s'occupe justement de ces questions sur les actifs relatifs aux actifs numériques, qui entrent en vigueur en 2024 et qui, justement, essayent de réguler le secteur et ses intermédiaires, de faire en sorte qu'il y ait des fonds propres, qu'il y ait une assurance professionnelle sur l'entreprise, qu'il y ait une politique de gestion des conflits d'intérêts, de cybersécurité, etc. Et ça, c'est une bonne chose. Et j'ai envie de dire, c'est un peu notre obédience un peu romaine de faire des cadres et des lois avant l'usage. Mais ça révèle plutôt bon, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs internationaux ou américains qui ont envie de venir en France parce que le cadre est clair, ce qui n'est pas le cas aux US.
Alors, vous parliez de MiCA, on va écouter Christine Lagarde qui le défend.
We believe
Depuis que nous avons commencé ce travail sur les actifs numériques et leurs risques, la finance décentralisée pourrait potentiellement faire peser de réels risques à la stabilité financière. Et ce sera particulièrement le cas si la croissance rapide des marchés et des services liés aux actifs numériques se poursuit et qu'ils intensifient leurs interconnexions avec le secteur financier traditionnel et l'économie au sens large. Pour le moment, les liens entre le secteur privé des actifs numériques et la finance traditionnelle restent toujours limités. Mais aujourd'hui, le Comité européen du risque systémique soutient l'adoption rapide et l'application de la régulation sur les marchés des cryptoactifs que vous connaissez tous très bien sous le nom de MiCA.
Voilà, la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, donc avec cette volonté de régulation qui va donc arriver à partir de 2024. Nastasia Hadjadi, vous êtes assez sceptique quant à la portée réelle de ces textes.
Alors déjà, avant de répondre peut-être sur la question des textes, je voudrais rebondir sur le fait qu'il faille réduire les problématiques de la crypto-industrie à des sujets qui ne concerneraient que les intermédiaires. Je pense que c'est une vision trop réductrice et trop optimiste. En réalité, sans ces intermédiaires-là, il n'y a pas les rendements qui sont proposés aux personnes qui sont attirées par cette industrie. Donc je rappelle que c'est quand même une industrie qui pouvait proposer des rendements qui allaient jusqu'à 20% sur certains placements financiers, donc très très important, évidemment de manière ahurissante, bien plus important que ce que propose le système bancaire traditionnel. Donc ça a attiré beaucoup de personnes. Si on enlève ces intermédiaires, on n'a plus ces rendements et on n'a plus aussi ce volume qui caractérise ce marché. Et par ailleurs, je pense que croire comme ça en la fonction autorégulatrice du marché qui arriverait à séparer le bon grain de livré et finalement à se purger lui-même de ses mauvais acteurs, personnellement, c'est pas une position que je défends. Du coup, on en vient à cette question de la régulation.
De la régulation. À l'échelle européenne.
Effectivement, à l'échelle européenne, il y a un volontarisme qui est très clair. Après, il concerne donc pour MiCA des éléments somme toute basiques, en tout cas le minimum qu'on puisse faire en termes de protection des consommateurs. Donc l'idée, c'est d'essayer d'appliquer un certain nombre de règles qui prévalent dans le système bancaire et financier à ce secteur des cryptoactifs, mais on reste sur quelque chose qui est quand même très très basique en termes de protection des consommateurs. Donc évidemment, cette régulation, elle est extrêmement positive en Europe. Pour ce qui est du reste du monde, c'est très très inégal. On voit en ce moment, de manière extrêmement récente, depuis le mois de janvier, que la Security and Exchange Commission, donc l'AMF américain, est en train de serrer la vis de manière assez forte. En restreignant l'accès justement des intermédiaires au système bancaire traditionnel, donc en restreignant leur capacité à ouvrir des comptes en banque et donc à faire circuler ces capitaux. Et elle prend aussi un certain nombre d'actions sur les stablecoins précisément. Peut-être que tu as des informations un peu plus fraîches que moi, mais je sais que la question des stablecoins, la SEC considère que cet objet en particulier a des risques qui sont importants pour les investisseurs.
Stablecoin, d'ailleurs, je crois qu'il y a une actualité, hein, justement, avec la création d'une stablecoin justement basée sur l'euro, c'est ça ?
Oui, ouais. C'est ça. C'est en Finlande, c'est une société finlandaise, Membrane Finance, qui propose un stablecoin euro et qui est régulé en tant que monnaie électronique, et ça anticipe ce que fait MiCA, c'est-à-dire pour émettre un stablecoin avec une parité 1 pour 1, avec un euro dans un compte bancaire, effectivement, il faudra avoir l'agrément de monnaie électronique. Mais pour revenir sur le propos de Nastasia, c'est que souvent j'ai envie d'être d'accord avec toi, mais je trouve qu'il y a une vision un peu monolithique de l'écosystème. Tout à l'heure, par exemple, dire que l'écosystème défend le Salvador, c'est pas le cas. Je peux trouver que l'initiative est intéressante sans défendre un pays qui est objectivement...
C'est un produit d'appel.
Là, vous revenez un petit peu
en
arrière.
Dictature, c'est vrai.
Ça a été dit.
Je le concède. C'est sur les intermédiaires. Non, c'est souhaitable. C'est ce que dit Madame Lagarde et a raison. C'est qu'il faut réguler les intermédiaires qui aujourd'hui sont les portes d'entrée vers cet écosystème. Alors oui, il y avait des marketing un peu agressif sur les taux à 20%, mais 20% c'était ce qui est proposé.
Quand on parle des intermédiaires, on est d'accord qu'on parle justement des plateformes,
des entreprises
et Binance et des entreprises. Comme est-ce que justement la faillite de FTX ne va pas renforcer encore plus la place de Binance et donc
quasi monopole de Binance.
Voilà, c'est ça, la puissance de cet intermédiaire là qui devient quasiment peut-être.
Et d'ailleurs, les monopoles sont pas souhaitables, c'est-à-dire qu'on on serait content d'avoir Coinbase et d'autres acteurs, même français, européens, a fortiori. C'est toute la régulation en France qui date de la loi Pacte en 2019 de créer, pareil, l'enregistrement ou l'agrément. Bref, c'est différentes notions, mais une sorte de label pour pouvoir proposer des services sur le marché français. Et on a de belles entreprises PSAN en France, de Bitstack à Aplo, qui ont des clients qui se développent et qui vont vers la réglementation européenne en levant des fonds, se structurant, en faisant de la compliance. Et ça, c'est à mentionner, c'est-à-dire de pas dire que tous les intermédiaires sont mauvais. FTX était aux Bahamas, une mauvaise gestion infantile, etc. En France, on a des bons acteurs qui se créent, d'ailleurs, qui sont pas tellement concernés par toutes ces arnaques.
Et qui sont concurrencés de manière déloyale par certaines plateformes, dont FTX, qui n'étaient pas enregistrées.
C'est un vrai sujet, je suis totalement d'accord. C'est ce qu'on appelle
et qu'on retrouve, il faut le dire, dans bien d'autres secteurs. Justement.
Totalement,
la concurrence déloyale liée au numérique avec des entreprises qui sont installées ailleurs et qui bénéficient. C'est... Ça, le monde numérique, malheureusement, on a foison. Juste parce que vous êtes revenu tout à l'heure sur les taux même et l'origine des cryptos. Est-ce que le fait d'une régulation qui s'avère donc une régulation étatique, peut-être à l'échelle européenne, est-ce que c'est pas aussi antinomique par rapport à l'idée même des crypto?
Ça dépend. Si on se réfère au manifeste des cypherpunks ou à l'idéologie qui baignait dans la création de ça, il faut rappeler qu'on était quand même sur les deux blocs, l'URSS et donc la crainte de l'irruption d'un acteur étatique sur les échanges et en l'occurrence la vie privée, la valeur, c'est une des choses les plus fondamentales. Pour le développement de l'industrie, non, il faut être assez pragmatique. Je pense que c'est nécessaire que les intermédiaires soient régulés. Je pense pas qu'il y ait forcément des contradictions. Après, qu'il y ait dans l'écosystème cette idéologie qui perdure, aujourd'hui, c'est sur une minorité d'utilisateurs. Il y a beaucoup de personnes qui ont du Bitcoin sans forcément adhérer à l'idéologie initiale. Je reviens juste à cette notion, c'est l'alternative. C'est-à-dire que dans certains cas, ça offre une alternative. Julian Assange, Edward Snowden, c'est pas un hasard s'ils défendent Bitcoin et ces technologies-là. Parce que quand on a, par exemple, une censure des États-Unis pour de bonnes ou de mauvaises raisons, pas de mauvaises raisons sur ces deux cas, mais c'est à titre personnel, et ils demandent, enfin, pour vivre, ils sont très contents d'avoir des donations en Bitcoin.
Mais c'est celle-là où justement la vie est faite de nuances, c'est que là vous prenez deux acteurs, deux incarnations de gens qui utilisent justement les cryptos, et on peut en prendre deux autres, Elon Musk et Peter Thiel, qui défendent d'autres intérêts et qui sont plutôt des censeurs que des gens qui prennent liberté de
source. C'est ça qui est,
voilà.
C'est pour ça que moi aussi j'essaye d'introduire un peu de nuances. On peut travailler dans la crypto, adorer la crypto et quand même être critique sur la crypto.
Juste pour terminer cette histoire de régulation et de voir comment justement il y a aussi une force de lobbying de la part de ces acteurs-là. En avril 2022, Binance qui a recruté une ancienne régulatrice de l'AMF. Donc on voit qu'on est aussi dans une forme de porosité. C'est un lobbying qui est assez massif. Nastasia Djadjitla, vous l'avez aussi analysé, quantifié cette puissance de lobbying.
Oui, alors dans le cas de Binance, effectivement, ils ont été déjà accueillis en grande pompe par Emmanuel Macron lors du sommet Choose Friends qui avait lieu à Versailles. Bon, il y avait un aéropage de patrons de la tech et certains de la crypto, dont le patron de Binance. Il me semble qu'il devait y avoir celui de Coinbase aussi qui était présent, ou de Kraken. En tout cas, des gros exchanges comme ça. Et Binance avait effectivement des ambitions en France qui sont énoncées. Et donc, de manière à s'implanter, ils ont effectivement recruté chez les hauts fonctionnaires français. Donc, Stéphanie Cabossoiras, qui était donc une des directrices de l'AMF et également un ancien du Trésor, dont je pourrais retrouver le nom, Bruno Bézard. Voilà. Donc deux hauts fonctionnaires français dont l'une appartenait quand même, a fait en tout cas une partie de sa carrière au sein d'une autorité supposément indépendante pour justement réguler les marchés financiers. Donc ça pose question. Et juste un chiffre rapidement, donc ça c'est la France qui est un tout petit minuscule marché, mais aux États-Unis, là où vraiment c'est un énorme marché en matière de cryptoactifs, on considère que le nombre de lobbyistes entre 2018 et 2021 sur la question des cryptoactifs a triplé. Et ils sont recrutés, là encore, chez beaucoup d'anciens des agences de régulation.
Et puisque vous parlez des États-Unis, pour revenir à notre fameux SBX, on rappelle que ça a été un des plus grands donateurs, justement, de partis politiques, notamment les démocrates. Et pour les midterms, il a investi 40 millions de dollars. Donc là, on voit aussi, sans du tout présupposer d'une certaine influence, mais en tout cas, beaucoup d'argent qui a été investi chez les démocrates.
Et chez les républicains aussi.
Et chez les républicains, je crois que c'est son cofondateur qui a investi. Voilà. Et ça, c'est un principe, non pas de crypto, mais qui est un principe de jeu au casino. Si on parie sur le rouge et le noir, part tomber sur les zéros, on est sûr de gagner. Comme on gagne une chronique de Marie Turcan qui nous a rejoint dans ce studio. Bonsoir Marie.
Salut.
J'ai bien aimé justement Anastasia qui parlait de grande pompe tout à l'heure, puisqu'on va pas parler de pompe, enfin presque. On va parler de style vestimentaire. de notre amie SBF. On vous écoute, Marie, puisque vous allez faire une petite analyse de ce style qui est devenu une marque de fabrique.
C'est vrai, je vais vous planter le décor. La scène se déroule la veille de la première apparition de Sam Bankman-Fried à la télévision américaine. Un collègue l'interpelle. « Bon, quand est-ce que tu vas couper tes cheveux? Tu as l'air ridicule. » L'intéressé répond, pragmatique, « Je pense qu'il ne faut pas que je les coupe, cela ferait perdre de la valeur à l'entreprise. Je crois qu'il est important que les gens pensent que je suis fou. » Cette anecdote est rapportée par le New York Times en mai 2022 et elle résume bien comment le fondateur de FTX a réussi à tirer profit d'une esthétique survalorisée dans la Silicon Valley, le mythe du petit génie mal sapé. Bankman-Fried a poussé le concept à l'extrême, basket en mauvais état, t-shirt informe, bermuda délavée, le trentenaire ne passait pas inaperçu au milieu des autres hommes en costard. Ça vous rappelle personne ?
Alors Marc,
Bardo,
vous avez cassé Erika et toi ? Comment tu sais ça ? C'est sur ton blog ?
Ouais.
Et ça va ?
J'ai besoin de toi.
Je suis là pour toi.
Non, j'ai besoin de l'algorithme que tu utilises pour classer les joueurs d'échecs.
Ça va, t'es sûr ?
On classe des filles.
Tu veux dire des étudiantes ?
Ouais.
Tu crois que c'est une si bonne idée ?
J'ai besoin de l'algorithme.
Marc.
J'ai besoin de l'algorithme.
Vous aurez reconnu The Social Network, le film sur Facebook. L'acteur Jesse Eisenberg y campe un Mark Zuckerberg revanchard, caché dans son hoodie avec une bonne touffe de cheveux bouclés mal peignés. Le même Zuckerberg deviendra en partie célèbre pour ses fameux t-shirts gris identiques. Ce que l'histoire dit d'ailleurs moins souvent, c'est que ces t-shirts coûtent 300$ pièce et étaient faits sur mesure par un couturier italien.
Et pour vous, Samari, qu'est-ce que ça signifie ?
Eh bien, qu'il serait peut-être temps de casser le mythe. La supercherie Bankman-Fried met en lumière l'aveuglement de certains investisseurs, qu'il méprisait d'ailleurs lui-même, assurant qu'il ne porterait jamais de pantalon fermé devant eux. On pourrait se montrer moqueur, se dire que bon, ils ont eu que ce qu'ils méritent, hein. Mais qui en pâtit en réalité de ce biais ? Je citerai Nisha Dua, responsable d'un fonds d'investissement américain, qui confiait récemment aux médias Axios « Parmi les milliers d'entrepreneuses que j'ai rencontrées, je ne prends pas de risque en disant qu'il n'y en a pas une seule qui se soit habillée comme Sam Bankman-Fried. » D'Einstein, aux personnages de séries comme The IT Crowd ou Silicon Valley, les exemples crient tous la même chose. Vous pouvez faire confiance à ces hommes qui n'ont pas besoin de faire d'efforts car ils sont géniaux. Cela s'étend en politique. Prenez Donald Trump, Boris Johnson avec leurs costumes trop grands et leurs cheveux de paille. Là où un look négligé peut être valorisé chez un homme, surtout quand il est blanc, une femme, encore plus si elle est racisée, s'entendra dire qu'elle ne présente pas assez bien pour qu'on lui fasse confiance. Imaginerait-on une seconde qu'une femme puisse faire croire qu'elle est folle pour attirer l'argent d'investisseurs ou récolter les voix dans les urnes? On appelle ça le double standard. Et lorsqu'on sait que les femmes ont levé seuls 2% des investissements aux États-Unis l'an dernier, on se dit qu'à ce rythme, ce sont nos arrière petites filles qui accéderont peut-être à l'égalité.
Merci beaucoup Marie Turcan pour votre chronique qui fait écho quelque part à notre sujet de la semaine prochaine sur le technoféminisme, comment le numérique aggrave les inégalités. On sera avec Mathilde Saliou. Peut-être un commentaire, Stanislas Barthélémy, sur la chronique de Marie Turcan.
La crypto, finalement, quand on regarde la classe d'actifs, où il y a le plus de femmes qui ont investi dedans, donc c'est... Il y a encore une surreprésentation des hommes, 60%, parce qu'on a fait KPMG avec l'ADAN, Association pour le développement des actifs numériques, a fait une étude qui porte sur fin 2021 sur la crypto avec Ipsos, donc méthodologie éprouvée scientifique. On voyait qu'il y avait 60% des investisseurs qui étaient des hommes, donc 40% des femmes, ce qui fait que c'est toujours trop, mais mine de rien, c'est mieux que d'autres classes d'actifs.
Est-ce que c'est vrai, quand on regarde le monde de la crypto comme ça, vu de l'extérieur, et ceux qui la représentent, j'allais dire celles et ceux dans une formule bien choisie, mais c'est plutôt ceux qui la représentent, en fait. C'est quand même on a l'impression que c'est quand même un écosystème d'hommes.
Comme dans la tech. Après, j'ai eu la chance d'être recruté par Claire Balva, qui est la patronne de Blockchain Partner et qui est un modèle, mais avec Alexandre aussi, les deux, justement, qui nous ont sensibilisés sur ces sujets-là. Mais oui, effectivement, pour reprendre le mot de Nastasia, je suis optimiste. Donc, optimiste par la volonté et pessimiste par l'intelligence, comme disait Gramsci. Mais je pense que l'écosystème peut faire mieux. Et en tout cas, cette étude Ipsos me donnait quelques raisons de le penser.
Voilà, une citation de Gramsci, vous êtes bien sur France Culture. Nastasia, vous êtes optimiste aussi ou plutôt pessimiste ?
Alors moi, je suis plutôt pessimiste sur la question des cryptoactifs. Et par ailleurs, ce que ça m'évoque, pour rebondir sur ce que dit Stanislas, c'est à quel point cette industrie sait bien se marketer. À savoir qu'aux femmes, on va vendre de l'émancipation, aux pauvres, de l'émancipation, mais cette fois financière, aux populations du Sud, on va leur parler d'inclusion. Mais à la fin, ce qu'on trouve, c'est quand même des perdants, beaucoup de perdants, beaucoup de perdantes, des centaines de milliers, je le répète, c'était des millions aujourd'hui d'investisseurs et d'investisseuses qui ont perdu de l'argent dans certains des scandales dont on a parlé ce soir, mais globalement dans une industrie qui est très prédatrice, et notamment pour les plus fragiles.
Voilà, des propos, justement, des témoignages qu'on retrouvera sans doute dans votre ouvrage qui va paraître en mai aux éditions Divergence. Merci à tous les deux d'avoir été présents pour cette émission. Je remarque que vous avez commencé en vous voyant et vous terminez en vous tutoyant. Ça veut dire que le meilleur des mondes, malgré ses nuances et ses divergences, peut rapprocher, et ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Juliette Devaux à la préparation, Héloïse Robert, notre stagiaire, et aussi modératrice à la réalisation, Camille Mathy, à la réalisation technique, Florent Bujon, à la réalisation vidéo, Dimitri Paz. Le meilleur des mondes, c'est terminé. Une émission, bien sûr, à réécouter en podcast.